Je vous invite à tourner avec nous dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. On va aller ensemble dans 2 Corinthiens, on va aller dans 2 passages ce matin. On va tourner ensemble dans 2 Corinthiens 8. Alors si tout à l'heure on a vu qu'on avait des visiteurs, peut-être que vous n'avez pas avec vous la parole de Dieu, je vous invite simplement à lever la main, les placeurs vont se faire un plaisir de tourner dans les Écritures pour vous afin que vous puissiez suivre la lecture dans 2 Corinthiens 8. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient besoin d'avoir une Bible qu'on leur apporte déjà ouverte dans ce passage, juste lever la main. Ça va, alors 2 Corinthiens 8, et Alexandre va nous lire un passage dans 2 Corinthiens 8, et moi je vais lire ensuite dans Apocalypse 1, alors peut-être que vous pouvez déjà glisser un doigt dans Apocalypse 1. 2 Corinthiens 8, versets 9 à 15, nous allons écouter ensemble la parole de Dieu. 7 à 15, je m'excuse.
2 Corinthiens 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas.
Amen. On va tourner ensemble dans Apocalypse 1. Merci, Alex. Je vais vous lire dans Apocalypse 1, les versets 5b, la deuxième partie du verset 5, un passage que vous connaissez bien, 5b à 7. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es notre précieux trésor. Seigneur, je ne pourrais jamais me présenter devant toi, devant ton Père céleste, sans craindre la colère à venir, sans craindre le juste jugement de Dieu sur un pécheur tel que moi, si ce n'était pour ton amour, Jésus, à la croix. Seigneur Jésus, nous contemplerons ta beauté, la beauté de ta grâce, de ta douceur, de ta patience, de ta miséricorde, éternellement. Nos regards, notre cœur, nos pensées seront comblés de joie dans ta présence. Et nous adorerons l'agneau immolé, celui qui s'est offert pour des pécheurs tels que nous. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Père éternel, je veux te demander de venir nous bénir ensemble ce matin alors que nous nous penchons sur ta parole. J'ai cette conviction profonde, Seigneur, cette conscience d'engager cette Église sur un terrain délicat. Un terrain où trop souvent le diable a régné. Non, Seigneur, l'ennemi de nos âmes ne veut pas que nous soyons libres et riches en Dieu. Mais il nous veut pauvres et convaincus de nos richesses. Bernés, nous pensant riches, alors que nous serions pauvres, aveugles et nus. Père, je te prie dans ta grâce de venir parler à nos cœurs ce matin. Nos oreilles sont disponibles. Rends nos cœurs disponibles maintenant. Et que ton esprit nous parle, Seigneur, afin que nous soyons libres et heureux dans tes voies. Si ce matin, au milieu de nous, Père, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel, par une grâce que seul toi peux accorder, Seigneur, qu'à travers une prédication sur les finances, il saisisse l'Évangile. Et que son âme reparte d'ici, Seigneur, le cœur en paix, réconcilié avec Dieu. C'est en Jésus-Christ que je te prie, Père. Amen. Randy Alcorn, qui a écrit quelques livres sur les finances, c'est un écrivain qui a écrit des livres, des romans, mais aussi des essais. C'est lui qui a écrit The Treasure Principle. Voici ce qu'il a dit. Dieu nous rend plus prospères, non pour augmenter notre standing, mais pour voir notre générosité grandir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On en est à notre troisième dimanche dans la série sur l'argent et les biens matériels. On avance ensemble pour essayer de comprendre spécialement ce que le Nouveau Testament enseigne sur les finances. Vous aurez remarqué que je ne vais pas vraiment dans les passages de l'Ancien Testament. C'est volontaire. Ça m'aurait pris une série plus longue. Mais je voulais vraiment me concentrer sur ces passages du Nouveau Testament. Et donc, on est en train de voir ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur les finances et les biens matériels. Comme on l'a vu il y a deux semaines, les biens matériels ont été créés par Dieu et tout ce que Dieu a créé est bon. Même très bon. Les biens matériels que Dieu nous donne sont une bénédiction de Dieu. Point. Et comme je le disais il y a deux semaines, tout ce que je dis après n'est pas en contradiction avec ça. Ou simplement saisir la pensée de Dieu pour comprendre comment ça va ensemble. L'apôtre Paul nous dit que les biens matériels nous ont été donnés pour que nous en jouissions, pour que nous en profitions, dans ses termes à lui. Maintenant, on est pécheurs. On est tous pécheurs. Depuis que le premier homme et la première femme ont péché et ont rejeté Dieu, le principe, la réalité du péché coule dans nos veines. Nous naissons pécheurs. Ces belles petites bêtes vont vous révéler très rapidement qu'elles sont pécheresses. C'est un héritage qui vient avec toute la beauté d'être un homme et une femme depuis les premiers péchés. Et le péché a cette fâcheuse tendance, écoutez bien ceci, à nous amener à nous faire des idoles dans nos vies avec des choses qui étaient pourtant très bonnes. Le péché a cette tendance à produire des idoles dans nos vies avec des choses qui, à l'origine, étaient données par Dieu, étaient très bonnes. Tout ce que nous touchons peut, je dis bien peut, devenir une idole dans notre vie. Tout. C'est un peu comme la malédiction de cet homme qui voyait tout ce qu'il touchait se transformer en or. Midas, merci. Il y a des gens cultivés ici. Jusqu'à sa nourriture. C'est une malédiction. On en meurt. Tout ce que nous touchons peut devenir une idole dans notre vie. Voici ce que je veux dire par là. C'est que plutôt que de demeurer une bonne chose que Dieu nous a donnée, cette chose ou cette personne en vient à prendre la place de Dieu dans notre cœur. Alors, ça peut être le cas avec mon épouse, mes enfants, mon travail, ma santé, mon argent. Et lorsque cela se produit, je commence à avoir de la difficulté à entendre lorsque Dieu veut me parler. C'est un des premiers symptômes. Lorsqu'une bonne chose que Dieu a créée et vous a donnée commence à devenir une idole dans votre vie, vous commencez à avoir de la difficulté à entendre la voix de Dieu. Votre attention n'est plus disponible pour Dieu parce que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre est venu prendre la place de Dieu sur le trône qui siège au centre de votre cœur. Et Dieu a beau essayer d'attirer votre attention, vous n'êtes plus là. Possiblement parce qu'une bonne chose, une bonne personne que Dieu a placée dans votre vie, une bénédiction de Dieu a été transformée par votre nature pécheresse en idole dans votre vie. Et vous n'êtes plus capable d'entendre ce que Dieu veut vous dire. Dieu veut me parler, mais il n'a plus mon attention. C'est mon argent, mes passions, mon amour pour une femme, mes inquiétudes, mes ambitions qui ont davantage mon attention. Vous savez de quoi je parle? Nous vivons tous cela par moments. Cette chose ou cette personne, ce désir qui m'empêche d'écouter Dieu est devenu une idole dans ma vie. Et c'est particulièrement vrai avec l'argent et les biens matériels. On l'a dit la semaine dernière, il y a un pouvoir de séduction phénoménal dans les biens matériels, spécialement lorsqu'on vit dans une société comme la nôtre, qui est centrée sur les biens matériels et sur l'argent. Très jeune, écoutez bien, vous allez trouver ça cute, suivez-moi jusqu'au bout. Très jeune, nos enfants développent le réflexe de penser à ce qu'ils voudraient avoir à leur prochaine fête comme cadeau. Mais ce n'est pas juste qu'est-ce que je vais demander à pas. C'est combien pas ça représente l'argent qui est donné pour mes cadeaux. Et là, ils commencent à planifier, ils commencent à vérifier qu'est-ce qui coûte quoi. Ça commence jeune, je peux vous le dire. Je suis témoin. Ils sont bons et tout est orienté sur ça. Cette culture, de cette soif de planifier ma prochaine acquisition. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. 6 ans, 7 ans, 8 ans, s'ils sont bons à l'école, ça commence tôt, je vous le dis. Maintenant, je le répète encore une fois. Les biens matériels n'ont rien de mal en soi. Au contraire, ils ont été créés par Dieu. Le problème, c'est la place qu'ils occupent dans nos vies, dans notre cœur. Alors, comment protéger mon cœur? Comment nous assurer que les biens matériels ne seront pas une idole dans nos vies? On a commencé à répondre à cette question-là la semaine dernière. Premièrement, il s'agit de faire un choix très intentionnel de vivre pour le royaume des cieux. Voici comment je l'ai formulé. Choisir le royaume des cieux comme orientation de mes finances personnelles. Vous arrêtez en couple, vous arrêtez comme personne, vous asseoir avec des amis pour marquer, tracer une ligne dans le sable, dans la ligne du temps de votre vie pour dire « À partir d'aujourd'hui, le royaume va venir orienter ma gestion des finances personnelles, va venir bouleverser littéralement votre vie. » Et ce sera le début d'une libération, le début d'une nouvelle grâce. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, 1 à 3, je le lis rapidement. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Affectionnez-vous aux choses d'en haut. non à celles qui sont sur la terre. Jésus a dit dans Matthieu 6, nous l'avons lu la semaine dernière, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Voyez-vous, tout ceci est plein de bon sens lorsqu'on a réalisé que l'âme humaine est éternelle. Lorsqu'on a réalisé que l'âme humaine est éternelle mais pécheresse et qu'il n'y a de salut en personne d'autre qu'en Jésus-Christ. L'orientation de ma vie change. Les priorités de ma vie changent. Quand je réalise que je suis engagé dans un pèlerinage ici-bas, attendant un monde meilleur, mes yeux ne sont pas fixés sur ma maison terrestre. Celle-là est temporaire, mais sur la place que Christ est en train de me préparer au ciel. La maison de vos rêves, si vous ne l'avez pas réalisé, si vous êtes en Jésus-Christ, la maison de vos rêves, vous l'avez déjà gagnée. Et tout l'argent que vous allez mettre dans votre maison ici-bas, c'est en attendant la maison de vos rêves. Est déjà gagné si vous êtes à Christ. C'est lui qui est en train de la préparer. Vous ne pourrez pas en faire une plus belle. Vous ne pourrez pas en faire une plus belle. Comment protéger mon cœur de la séduction des richesses? Choisir de vivre et de m'investir dans le royaume des cieux. Apprendre à grandir dans mon contentement pour investir le reste dans le royaume des cieux. Si je n'amasse pas des trésors sur la terre, j'ai de quoi amasser pour des trésors au ciel. Et en faisant cela, je vais protéger mon cœur. En faisant cela, mes enfants vont voir que je vis ce que je prêche. Là où va votre argent, atteste ou non devant vos enfants la véracité de l'Évangile. Est-ce que vous réalisez cela? Là où va votre argent, atteste ou non comme témoignage, vous aurez beau leur dire, il faut que tu confesses tes péchés à Jésus, il va te pardonner tes péchés. Jésus, c'est notre sauveur, il nous prépare une place au ciel. Oui, mais papa, on dirait que tu t'installes pour longtemps ici. Est-ce que je peux vraiment y croire à cette place-là? Imaginez un instant que vous la gagnez. Vous savez, il y a des tirages depuis une dizaine d'années au Québec. La maison de vos rêves. Imaginez que vous la gagnez, la maison de vos rêves. Vous rentrez à la maison, puis là, vous dites à la famille, « On l'a gagnée! » Maintenant, ils sont en train de la construire, puis là, vous donnez vos petites idées. Toute la famille embarque là-dedans. Les enfants rêvent de la chambre incroyable qu'ils vont là-dedans. La salle de jeu qu'ils vont avoir là. Et ça va arriver dans 6 mois. Alors, qu'est-ce que vous faites en attendant? Au lieu de vous ouvrir une petite pop tent que vous avez achetée chez Canadian Tire, vous achetez un gros terrain et vous commencez à construire. Après quelques semaines, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants vont venir vous voir et ils vont dire, « Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Je comprends pas. On n'a pas gagné la maison de nos rêves? Pourquoi on est en train de faire ça? Qu'est-ce que tu fais? Vos voisins vont venir vous voir. Tu ne catches pas, ta maison de tes rêves, tu as gagné un terrain, puis c'est toi qui as bâti. Non, non, j'ai gagné la maison de mes rêves. Mais qu'est-ce que tu fais là? Vos enfants vont voir que vous vivez ce que vous prêchez. Vos voisins vont le voir. Ça va paraître de bien des manières. Il y a des choix que vous allez faire financiers qui vont devenir visibles à un moment donné. C'est inévitable. Vos amis vont le voir, mais surtout, votre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ que vous avez choisi de suivre, lui va le voir. Lui va le voir. Si vous décidez d'orienter vos finances sur le royaume, acceptez d'apprendre à vivre le contentement, à grandir dans votre contentement pour vous investir dans le royaume. C'était le premier élément de la réponse. Orienter ma gestion de mes finances personnelles sur le royaume des cieux afin de protéger mon cœur et de glorifier mon Dieu. Protéger mon cœur des richesses, de la séduction des richesses. Deuxièmement, comment est-ce que je peux protéger mon cœur de la séduction des richesses, m'éviter bien des tourments, nous assurer que les biens matériels demeurent une bénédiction. Vous comprenez, c'est ça l'enjeu aussi. Les biens matériels ne seront pas une bénédiction s'ils deviennent une idole. Ça ne sera plus une bénédiction dans ce cas-là. m'assurer que les biens matériels demeurent une bénédiction au lieu de devenir une idole dans ma vie? Une des réponses, je vous dirais, la plus forte dans tout le Nouveau Testament, comment est-ce que le Nouveau Testament répond à cette question-là? C'est la générosité. Grandir dans notre générosité afin de glorifier Dieu, afin de lui dire qu'on l'aime, de manière très concrète et pratique, afin de protéger notre cœur de la séduction des richesses. C'est vrai, devenir généreux, c'est se détacher de ses biens, non? Il me semble que c'est logique. Juste devenir plus généreux, c'est comme être moins attaché, être prêt à donner des choses. Ça fait du bien de donner parce que ça nous libère. N'importe qui peut saisir cela. Il y a des non-chrétiens qui vivent cela. Il y a des systèmes politiques qui ont été bâtis sur ce principe-là. Grandir dans notre générosité libère. Et pourtant, notre motivation à nous comme chrétiens pour grandir dans notre générosité, c'est notre Sauveur Jésus-Christ. La générosité fait du bien, c'est vrai, tout le monde sait ça, même ceux qui n'ont pas été touchés par l'amour de Christ le savent, mais nous, frères et sœurs, nous qui pouvons chanter le passage que j'ai lu tout à l'heure dans Apocalypse 1, 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés par son sang de nos péchés. Pour nous, la générosité trouve un autre motif, et c'est celle de l'amour de Christ. Jésus-Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang, il l'a fait en donnant sa vie. C'est un pur acte de générosité que Christ a posé envers nous. Et il est notre inspiration. Mais plus profondément que ça. Lorsque Christ est entré dans votre vie, vous étiez tous pauvres. Lorsque Christ est entré dans ma vie, j'étais profondément pauvre spirituellement, complètement ruiné devant Dieu. Mes poches étaient complètement vides, j'avais rien à offrir à Dieu. En fait, c'est parce que Dieu, dans sa grâce, m'a révélé ma pauvreté spirituelle que j'ai pu saisir l'Évangile. C'est vrai? Il n'y a pas de conversion si tu ne sais pas que tu es pauvre spirituellement. Pour qu'une personne puisse accepter l'offre de Christ, il faut qu'il entre en contact, qu'elle entre en contact avec elle-même et qu'elle touche à sa pauvreté spirituelle. Le fait qu'elle n'a rien à offrir à Dieu, le fait qu'elle n'est pas juste, qu'elle est perdue, qu'elle est sous une condamnation, nous étions tous pauvres spirituellement. Et Christ, dans sa grâce, s'est dépouillé de ses richesses à lui parce que lui n'était pas pauvre. Spirituellement, Christ était le plus riche. C'est Dieu le Fils. Mais dans sa grâce et dans son amour, il s'est dépouillé de ses richesses et s'est fait pauvre afin que par son dépouillement, nous soyons enrichis. Si Jésus-Christ était resté au ciel, nous serions tous encore ruinés spirituellement. Complètement pauvres. On aurait beau avoir des belles maisons, des belles voitures, tout ce que vous voudrez, ce serait juste une course contre la montre. Et déjà dans vos vies, déjà dans nos vies, nous expérimentions la pauvreté spirituelle. Parce que nos mariages allaient tout croche, parce que nos amitiés étaient tout croche, parce que nos relations étaient tout croche, parce qu'il y avait plein d'idoles dans nos vies qui nous empêchaient d'entrer dans la liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Cette réalité de notre pauvreté spirituelle se vivait déjà à tous les jours dans nos rapports avec tout le monde et avec nous-mêmes. Et c'est seulement parce que Christ, dans sa bonté, a bien voulu se dépouiller de ses richesses afin que nous soyons rendus riches. Celui qui ne réalise pas sa pauvreté spirituelle a le sentiment de ne pas avoir besoin de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Il ne voit même pas ses péchés. Il est aveuglé et ne peut pas voir ses péchés. S'il fallait qu'il les voie, il en mourrait. Sans le pardon de Christ, c'est insupportable de découvrir ton âme. À quel point on est méchant, vicieux, mesquin, menteur, hypocrite. Comment tu peux porter ça s'il n'y a pas de grâce? Celui qui ne réalise pas sa pauvreté spirituelle a le sentiment de ne pas avoir besoin de Jésus. Ne voit pas ses péchés, il en est plein à l'intérieur et ne les voit pas, il est pauvre et ruiné et ne le sait pas. Mais vous avez cru en Jésus-Christ. Et pour que vous croyiez en Jésus-Christ, si vous avez connu l'Évangile qui est dans les Saintes Écritures, vous avez découvert votre pauvreté spirituelle. Vous avez réalisé que vous n'aviez rien à offrir à Dieu et que vous n'étiez pas capable de changer par vous-même. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour que nous soyons sauvés? Il s'est dépouillé de ses richesses. Pour venir vivre ici-bas comme un simple homme, le Fils de Dieu s'est dépouillé jusqu'à être pendu au bois. Afin que nous devenions des enfants de Dieu, afin que nous soyons riches de l'amour de Dieu. Lui qui était riche s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Voilà l'amour de Christ pour vous et moi. Tout à l'heure, Alexandre lut dans 2 Corinthiens 8, au verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Frères et sœurs, je veux plonger les regards dans le Nouveau Testament avec vous pour que nous apprenions ensemble comment gérer nos biens matériels. Et pour cela, je vous prêcherai l'Évangile. Amen. Devenez généreux comme Christ. Il y a deux semaines, on a dit qu'apprendre à gérer ses finances et ses biens personnels avec sagesse et générosité fait partie du processus de transformation du cœur pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Devenir généreux comme Christ. Devenir des imitateurs de Jésus, qui s'est lui dépouillé afin que nous soyons enrichis pour l'éternité. Grandir dans notre générosité, apprendre à nous dépouiller pour bénir un frère, pour aider une personne. Est-ce que ce n'est pas ça, ressembler à Jésus-Christ? Nous apprenons à donner généreusement parce que Jésus nous a donné, parce que nous voulons lui ressembler. Voyez-vous, je ne peux pas quitter mon ciel pour un frère, moi. Je ne peux pas quitter mon trône céleste. Je peux sortir de l'argent de mes poches pour aider un frère et imiter Christ. Je peux donner de mon temps pour aider quelqu'un et imiter Christ. Et en cela, je ressemblerai à Jésus-Christ, en me dépouillant moi-même. Pour aider un frère, pour aider une sœur, pour aider quelqu'un qui est dans le besoin, pour poser un acte de générosité comme Jésus l'a fait envers moi. Voilà pourquoi Paul parle de donner de bon cœur et sans contrainte. Celui qui donne parce que Christ lui a donné, donne de bon cœur. Lorsqu'on se targue, puis on s'époumonne à répéter qu'on n'est pas dans une religion ici, mais qu'on est dans une relation, de cette relation avec Christ qui s'est dépouillé pour moi, déborde un cœur qui est généreux, qui donne généreusement, parce que lui s'est dépouillé pour moi. Il n'y a pas de contrainte là-dedans. Il y a un cœur qui dit merci, c'est tout, et qui veut ressembler à son Sauveur. C'est encore là une des manières de dire merci à Christ et de lui ressembler de plus en plus. Ainsi, les chrétiens apprennent à être généreux parce que Christ a été généreux envers eux. Et c'est ça qu'on voit à travers tout le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui vient du cœur, d'un cœur qui a été bouleversé par l'Évangile de Jésus-Christ. Un cœur qui ne s'appartient plus, mais qui appartient à Christ et qui veut ressembler de plus en plus à son Sauveur, qui va grandir dans sa générosité. De manière plus concrète, pourquoi est-ce que les chrétiens du Nouveau Testament donnaient? Qu'est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament? Quelles sont les occasions, les moments où ils donnaient? Les chrétiens du Nouveau Testament donnent pour trois causes principalement. Paul dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il est en avant de vous ce matin, il y en a d'autres aussi. Dans 1 Timothée 5, 17, 18, Paul dit que l'ouvrier mérite son salaire, et ça veut dire le salaire du ou des pasteurs, et par implication, ça veut dire toute la vie d'une église locale. Alors, on voit les chrétiens pourvoir à la vie de leur église locale. Ça veut dire un bâtiment, si un bâtiment est nécessaire, ça veut dire du chauffage, ça veut dire les ministères, ça veut dire les ressources pour accueillir les enfants. Tout ce qui a trait à la vie de l'Église, d'accord? Les chrétiens du Nouveau Testament pourvoyaient aux besoins de leur Église locale. Alors, l'Assemblée ici se vote un budget en début d'année et nous nous donnons tous comme objectif de rencontrer ce budget. Première chose pour laquelle on voit que les chrétiens donnaient dans le Nouveau Testament. Deuxième chose, les chrétiens donnaient pour soutenir les prédicateurs de l'Évangile qui partaient en mission. Paul parle à plusieurs reprises de l'aide financière qu'il a reçue alors qu'il voyageait pour annoncer l'Évangile. Dans un sens, ça va de soi. Si les chrétiens doivent soutenir leur église locale, qui va soutenir les prédicateurs qui vont aller là où il n'y a pas d'église locale? Il va falloir que ce soit les autres. Alors, on soutient des missionnaires. Nous donnons pour la mission dans ce cas-là. Nous pourvoyons pour qu'il y ait des prédicateurs qui vont aller établir des églises locales par la prédication de l'Évangile, par les conversions qui vont venir en formant des disciples. Ces églises locales vont devenir autonomes, vont pourvoir à leurs besoins locaux, vont entrer dans la mission et vont aider à envoyer d'autres missionnaires. Voilà pourquoi les chrétiens donnaient dans le Nouveau Testament. Deux éléments déjà. Les besoins de leur église locale, la mission. Lorsqu'on parle de mission, c'est de ça dont on parle. D'abord et avant tout. Et troisièmement, puis je vous dirais, c'est celui qui ressort le plus fortement du Nouveau Testament. C'est vraiment intéressant à étudier, c'est assez bouleversant. Parce que ça implique des défis pour chacun d'entre nous. Les chrétiens donnaient généreusement pour aider ceux qui sont dans le besoin, en commençant par aider les frères et sœurs dans la foi. Et déjà, vous avez des passages qui vous viennent à l'esprit, j'imagine. Il donnait pour les besoins de l'Église locale, pour la mission, mais celui qui est le plus fort dans tout le Nouveau Testament, les chrétiens donnaient généreusement pour aider ceux qui sont dans le besoin, en commençant par aider les frères et sœurs dans la foi. Alors, vous pouvez penser à la générosité, au partage qu'on trouve au début du livre des Actes. Et même si on semble pas voir ça comme un modèle qui s'est établi dans tout le Nouveau Testament, vraiment, il y avait cette idée de tout en commun au début du livre des Actes. Même si on ne voit pas cette pratique-là s'imposer dans toute l'Église, de ça va découler une notion de partage constant à travers tout le Nouveau Testament. Il va y avoir des efforts pour partager, pour être généreux. On va mettre en place des diacres dans les églises qui devaient voir, entre autres, à partager ce qui était donné pour aider ceux qui étaient dans le besoin. À travers l'histoire de l'Église, on appelait ça en anglais « the Deacon's Fund », le fonds des diacres. L'Église donnait à un fonds commun et les diacres étaient responsables de voir lorsqu'il y avait des besoins dans l'Église pour pourvoir, pour aider. Paul organise une grande collecte à travers les églises pour aider les frères pauvres à Jérusalem. Une collecte sur plusieurs années. Pendant plusieurs années, il va récolter à travers toutes les églises, prenant toutes sortes de mesures de précaution pour s'assurer que l'argent était protégé, qu'il n'y avait pas d'histoire d'argent qui aurait été usurpé ou quoi que ce soit. Voici ce que Paul dit dans 1 Timothée 6, versets 17 et 19. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. » N'est-ce pas, c'est le danger quand tu as de l'argent? C'est qu'elle devienne une idole dans ta vie. Plutôt qu'espérer en Dieu, t'espères dans ton argent. Et c'est ça ta sécurité. « Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Ça va jusque-là? Espérez en Dieu, jouissez de vos biens. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Ça sonne drôlement comme Matthieu 6, non? Afin de s'amasser ainsi un trésor placé sur un fondement solide. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Voyez-vous, lorsqu'on étudie le sujet dans le Nouveau Testament et qu'on prend vraiment le temps d'aller voir tous les passages qui parlent des biens matériels et de l'argent, une des choses qui ressort très clairement, c'est qu'il y a une trop grande disparité entre les chrétiens très riches et les chrétiens très pauvres est inacceptable dans l'Église de Christ. Je répète ça. Une trop grande différence entre les chrétiens très riches et les chrétiens très pauvres dans l'Église ou entre les chrétiens riches et les chrétiens pauvres est inacceptable à la lumière du Nouveau Testament. Ce n'est pas quelque chose qui devrait se voir dans l'Église. Paul parlera d'un principe d'égalité afin de chercher toujours à atténuer. Je dis bien atténuer. La porte de sortie très, très facile lorsqu'on arrive sur un sujet comme celui-là, c'est de dire, oui, mais Yannick, on n'arrivera jamais à enrayer la pauvreté. À la fin d'une journée, quand Jésus avait guéri 2889 personnes, il allait se coucher. Pensez-vous qu'il en restait encore des malades? Pourquoi est-ce qu'elle allait se coucher? À l'impossible, nul n'est tenu. Je dois gérer ce que j'ai entre les mains et je suis responsable de bénir avec ce que j'ai entre les mains. C'est tout. C'est tout. Ainsi, Paul parle d'un principe d'égalité afin de chercher à toujours atténuer cette grande différence entre les riches et les pauvres. C'est ça qu'on a lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 8, les versets 13 et 15. Regardez avec moi. 2 Corinthiens 8, 13 et 15. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre. En sorte qu'il y ait égalité selon qu'il est écrit, et là Paul fait référence ici à la récolte de la manne dans l'Ancien Testament. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Il s'agit donc d'un principe de partage de notre superflu. Alors peut-être que vous pouvez voir maintenant pourquoi la semaine dernière, intentionnellement, on est allé dans Matthieu 6 pour parler du trésor que nous sommes appelés à nous amasser, non sur la terre, mais dans le ciel. Voyez-vous, si je suis en train de m'amasser un trésor au ciel, un trésor sur la terre, sans vivre un véritable contentement, il n'y en aura jamais de superflu. Si ma priorité est de m'amasser un trésor sur la terre et que je ne vis pas le contentement, il n'y en aura jamais de superflu. Seigneur, je le donnerai bien, mais il n'y en a pas. Si mon trésor est sur la terre, il n'y a jamais de superflu. Si mon trésor est au ciel, je peux commencer à voir tranquillement qu'il y a des superflus, qu'il y a des surplus. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que nous devons tous vivre sur le strict minimum. Ça ne semble pas être ça que le Nouveau Testament dit. Mais nous devons apprendre à reconnaître la différence entre le nécessaire et le surplus pour pouvoir apprendre à prier avant de dépenser le surplus. Nous disons tous que nous appartenons entièrement à Dieu. C'est vrai? Mon portefeuille appartient entièrement à Dieu. Le minimum, ce serait que je consulte le propriétaire avant de dépenser. Êtes-vous d'accord? Il faut que je mange, je mange, puis je rends grâce. Il faut que j'achète pour m'habiller, je m'habille, puis je rends grâce. On arrive au superflu? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Ça fait longtemps que je rêve à ça. Vous savez, aujourd'hui, un rêve, c'est un autre mot pour la convoitise. Quand c'est un rêve, c'est un rêve. Ça fait longtemps que j'en rêve, tu sais. J'accomplis un rêve, tu sais, c'est tellement beau. Mais est-ce que je suis prêt à prendre ce rêve-là, puis aller consulter Dieu, puis dire, Seigneur, tu sais que ça me ferait plaisir, Tu sais même que je suis un bon économe, que je gère bien mes choses, je travaille fort, je colle de l'argent. J'ai mis de l'argent de côté pour ça, Seigneur. Je ne l'achète même pas à crédit. Je suis correct? Est-ce que je suis prêt à aller consulter Dieu et dire, Seigneur, est-ce que c'est le temps? Tu sais que j'aimerais ça avoir ça, mais peut-être que tu veux que j'aide un frère aussi. Peut-être que je peux prendre une partie et aider un frère aussi. C'est quoi que tu veux que je fasse? Et vous savez quoi? Quand tu commences à entrer dans cette logique-là avec Dieu, tu commences à doubler les bénédictions. C'est vrai que c'est une bénédiction de pouvoir travailler avec nos mains, coller de l'argent, pouvoir mettre de l'argent de côté, réaliser des rêves, puis acheter des choses. C'est vrai que c'est une bénédiction. C'est une double bénédiction, je vous l'assure. Lorsque, à un certain moment donné, Dieu t'a placé la conviction de dire « Attends encore un peu, puis aide un frère avec une partie de cet argent-là. » Puis Dieu, après ça, permet que tu aies l'acheter ce que tu avais à cœur. Wow! Là, tu vois la bonté de Dieu. Ne serait-ce qu'apprendre à demander à Dieu s'il veut que j'achète ça. Ou demander à Dieu s'il veut me le donner autrement. Ou demander à Dieu si je devrais désirer cela. Mais pour faire cela, il faut que j'aie choisi premièrement d'amasser des trésors au ciel plutôt que sur la terre. Et là, ça vient réorienter complètement ma manière de voir les finances personnelles, ma manière de gérer mes finances personnelles. Ça vient bouleverser cela profondément. Aller au cinéma, manger au restaurant, suivre la mode, changer de télévision avant qu'elle brille. Je pense qu'on pourrait même faire un point pour acheter une télévision. Louer des films, m'abonner au câble, me payer des sports coûteux, un iPod, un iPhone, je sais, vous pouvez pointer des doigts vers moi, un DS, continuer. Tout ça, ce sont des surplus. Il y a des milliards de personnes sur la Terre qui vivent sans ça. Demain, ils vont se lever encore. Ils vont se réveiller, ils ne seront pas morts. Donc, on parle de surplus. Ce sont tous des surplus. Alors déjà, si on achète des choses à crédit, c'est de la folie pure. Mais si on n'est pas capable de voir que ces choses-là ne font pas partie de l'essentiel, mais des surplus, et de consulter Dieu avant de dépenser, je vous le dis, on est mal pris. Parce qu'on va se retrouver de l'autre côté et le trésor va être petit. Celui qui sème peu moissonnera peu, dit la parole de Dieu. Ainsi, les chrétiens du Nouveau Testament sont invités à donner généreusement de leur surplus pour pourvoir aux besoins de leur église locale, pour soutenir des missionnaires, pour aider des frères et sœurs dans le besoin et bien sûr aider des gens pauvres que Dieu place sur leur route. Frères et sœurs, lorsque j'ai commencé cette série-là, je savais très, très bien que j'allais toucher des cordes sensibles. Je savais en fait que je m'aventurais sur le terrain de l'ennemi. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle la vie privée qui est en fait un terrain qu'on veut garder un peu à l'écart. Puis souvent, le diable va s'accaparer de cet aspect privé pour pouvoir nous laisser seuls avec notre chair et la chair dirige dans ces moments-là bien des choses. Je peux vous assurer que la dernière chose que le diable veut voir, c'est que cette Église apprenne à vivre les principes de la parole de Dieu dans le domaine des finances. Le diable ne veut certainement pas que vous sortiez de vos dettes, que vous vous amassiez un trésor au ciel, que vous soyez moins attachés aux choses de la terre et que vous grandissiez dans votre générosité. Mais j'ai la conviction profonde que je vous apporte la parole de Dieu. Celle-là même par laquelle vous êtes venu à la connaissance de Jésus-Christ. Et j'ai la conviction profonde que Christ achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Il va nous faire grandir, les frères et sœurs. Pas parce qu'on est bon, on est fin et on est beau. Parce que lui l'est. Parce que lui s'est engagé. Il l'a signé avec son sang. La promesse est absolue. Nous allons grandir dans ce domaine. Grandir dans notre générosité pour ressembler un peu plus à Christ. Rappelez-vous, frères et sœurs, qu'il s'est dépouillé de ses richesses pour que vous soyez enrichis. Il a abandonné ses richesses, il s'est fait pauvre, afin que nous recevions le salut et que nous soyons riches de toute richesse spirituelle et qu'un jour nous allions le rejoindre, là où il nous prépare la vraie maison de nos rêves. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je suis déjà riche. Riche d'espérance, d'espérance pour mon éternité, riche de confiance dans l'avenir parce que tu es mon sauveur, riche d'espoir que tu ne m'abandonneras pas, riche de plein de libération de toutes sortes de péchés que tu as déjà opérés dans ma vie, riche d'une famille spirituelle tellement aimante et tellement gracieuse que je ne voudrais être nulle part ailleurs, Seigneur. Je suis déjà tellement riche, Seigneur Jésus. Apprends-moi à m'enrichir un peu plus en m'amassant un trésor dans le ciel, me détachant des choses de cette terre pour grandir dans mon contentement et dans ma générosité. Et que ton nom, Seigneur Jésus, brille dans nos comptes de banque, dans notre manière de gérer nos finances. Pour ta gloire, Jésus-Christ. Amen. On va louer le Seigneur ensemble.